Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
À l'écoute de RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr. J'ai de nouveau invité Sylvie. Bonjour.
Bonjour.
On avait parlé de comment métamorphoser nos émotions en cette période un peu particulière. Et tu nous avais aussi parlé de la gestalt. Et donc, nous avions effleuré comme ça le plan psychologique, j'allais dire. Et j'aimerais qu'on aille plus loin aujourd'hui pour essayer de comprendre dans quel enfermement psychologique on se trouve, nous, nos sociétés, nous face à ce virus par exemple en ce moment, mais d'une manière générale beaucoup plus large, plus vieille peut-être. Et donc ça a résonné chez toi.
Oui.
Et tu voulais nous, notamment nous introduire ce que Pearl avait dit, et on en avait parlé la dernière fois.
Dans les émotions négatives qu'on avait abordées, notamment la peur, le stress, l'anxiété, comment on pouvait se retrouver aussi facilement dans ces émotions-là, et de voir à quel point c'était compliqué d'en sortir. Et du coup, oui, il y avait pour moi le diagnostic que Pearl se dressait, qui est assez parlant à mon goût. Il décrit qu'un individu qui est élevé dans un environnement qui ne répond pas suffisamment à ses besoins, un environnement dur, cet individu va inhiber ses émotions et ses besoins. C'est un mécanisme de protection pour se renforcer face à cet environnement, entre guillemets, dur. Ce qui va entraîner chez l'individu une frustration et un développement dans un rapport au monde du type fuite ou attaque. C'est ce qu'on appelle être dans le mode survie. Et c'est ce qui va générer, du coup, beaucoup de comportements, de compétition, de rivalité et de domination. Et pour moi, nos sociétés et le monde des humains, c'est un peu dans ce fonctionnement-là qu'il est depuis maintenant la nuit des temps, quoi.
Voilà. Et la grande question que on aimerait essayer d'élucider aujourd'hui et avec toi, c'est pourquoi est-ce que l'humanité est prise dans ce comportement-là, pourquoi l'humanité est en mode survie en permanence alors que on a tout fait pour que technologiquement, par exemple, notre confort s'améliore, tout ça.
Alors, on a effectivement développé une intelligence technologique, et effectivement, sauf qu'on n'a jamais été creuser ce qui se passait dans notre inconscient. Et les études au niveau des neurosciences sont des études récentes. Ce sont des sciences, les neurosciences, c'est des sciences récentes. Et ils s'aperçoivent que dans un individu, il n'y a que 5% grosso modo de conscient et que 95% de ce qu'on est inconscient. Et l'inconscient, son besoin principal, sa mission principale, c'est la survie de l'individu, la survie de l'espèce.
Pourquoi ? Par défaut ?
Parce que notre inconscient a 400 millions d'années. Il y a des mémoires qui remontent à plus de 400 millions d'années. Le cerveau reptilien, par exemple, c'est, d'après les théories des scientifiques, est apparu au moment où les poissons sont sortis de l'eau pour devenir des amphibiens. Donc, le besoin de l'inconscient, c'était vraiment de protéger de menaces extérieures et de développer tout ce qui était...
fuite ou attaque.
Ouais, la fuite ou l'attaque, ouais, c'est ça.
Donc, depuis 400 millions d'années, sa mission est restée celle-là.
Bah ouais.
Et on n'arrive pas à lui faire comprendre.
Il n'y a pas de reset. Il n'y a pas de reset. Voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, de faire un travail de développement personnel, ça permet d'aller voir un peu ce qui se passe dans nos inconscients, de comprendre un peu l'origine de nos peurs et tout ça, et de pouvoir mettre en place de nouveaux fonctionnements.
C'est-à-dire solliciter nos 5% qu'on sait maîtriser,
ouais,
pour calmer les 80-15
ans. Oui, pour faire un peu cette espèce de reset là, et de reprogrammer quelque chose. En fait, comme on ne connaissait pas tout ça, en fait, c'est l'ignorance qui a fait que notre inconscient, lui, a fonctionné comme il était programmé depuis la nuit des temps. Et que lui, il a carte blanche, puisque pour l'instant, on lui demande rien d'autre. Donc lui, il fait en permanence son rôle de nous protéger. Et sauf que, peu importe les menaces, dès qu'il y a le moindre petit stress, ou dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, ou dès qu'il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, il nous met tout de suite en mode de protection et en mode survie. Donc soit on va fuir, soit on va attaquer. Avec soit une fuite de l'individu face à la situation en inhibant ses émotions. Et des fois en retournant la colère ou la frustration contre elle-même. Ou alors en attaquant l'extérieur et on rend responsables les autres de notre mal-être, de notre peur, de notre anxiété, de notre frustration.
Est-ce que... depuis toujours, l'humanité est donc oppressée. De quoi avons-nous peur ? Qu'est-ce qui fait qu'on est...
Du coup, c'est la mort. C'est, pour l'inconscient, la principale peur, c'est la mort de l'individu dont il est responsable. En fait, c'est un peu comme un gardien en nous. Sauf que...
Alors, je délire un peu, mais alors que l'inconscient est bien le seul à savoir qu'il va continuer à être là. Même si l'individu est mort, puisqu'il pourra hanter tous les autres.
Voilà.
C'est ça, cette fameuse âme, en fait.
Non, je pense que c'est encore autre chose, l'âme. Je pense que l'inconscient, lui, il a pas conscience qu'il est autre chose aussi, qu'il a une âme aussi.
Il n'a pas conscience qu'il est le même chez tout le monde, par exemple.
Alors là, je pourrais pas dire.
Alors, cette peur de la mort, en fait, donc, toutes les avancées technologiques ne permettent pas de se prémunir de ça. Et d'un autre côté, on n'a jamais réussi, humanité, nous, à considérer la mort comme un passage ou quelque chose de...
Ouais, effectivement. Alors, peut-être aussi, la peur de la mort est peut-être moins présente dans d'autres cultures, étant donné qu'il y a effectivement une autre vision de la mort. Avec une considération que ouais, c'est juste un passage et que la vie continue après. Il y a aussi pas mal de scientifiques qui commencent à se pencher sérieusement. Et la technologie permet maintenant de voir un peu plus ce qui se passe au niveau du cerveau. Et il y a pas mal de témoignages de gens qui ont vécu une mort... imminentes qui sont revenues et qui ont témoigné. Et il y a des scientifiques qui font des recherches là-dessus et qui se rendent compte effectivement que la mort soit peut-être qu'un passage dans un autre plan de conscience.
Mais pour l'instant, on n'arrive pas à l'analyser.
Ouais, enfin pour l'instant, c'est pas encore dans... ancré dans notre culture et on a plus de 2000 ans de judéo-christianisme qui fait que c'est compliqué de changer ce qui a été inscrit et mémorisé dans l'inconscient, justement. Ça représente 95% de ce qu'on est, donc c'est énorme d'aller farfouiller là-dedans et de voir qu'est-ce qu'on nous a transmis. Et qu'est-ce qui est imprégné en nous et qu'est-ce qui reste et qui crée des peurs en nous en permanence.
Donc, tout ce dont on pourrait être témoin aujourd'hui, donc, que ce soit la domination des hommes par les hommes, que ce soit l'hyper-contrôle, l'agressivité... ne sont que des purs mécanismes liés à
ce mode survie.
Ce désir de...
Ouais, à ce mode survie dans lequel on est et qui pour moi découle de notre inconscient.
Et pourquoi est-ce que les gens ont envie de dominer quand même les autres ?
Quand un animal domine dans la nature, c'est qu'il est assuré de manger, c'est qu'il est assuré de se reproduire, donc c'est qu'il est assuré de transmettre sa génétique. Donc c'est vraiment, pour moi, vraiment là l'instinct de survie de l'individu et de son espèce, et notamment de lui, quoi, de sa continuité.
Mais de manière purement égoïste, sa génétique à lui.
Oui, alors le mode survie nous enferme dans l'égoïsme et l'individualisme, ouais. C'est le besoin de se protéger en tant qu'être, en tant qu'individu. Donc peu importe les autres, à la rigueur. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui le reflète bien, ce comportement. C'est, tu sais, quand il y a les Black Friday, là, où on va créer chez les gens un sentiment de manque. Donc on les met dans un sentiment de risque de frustration. Et ils développent du coup ce mode survie. Et ils vont devenir super agressifs les uns envers les autres. Ils n'en ont rien à faire de leurs congénères. C'est eux qui comptent et point barre, quoi.
Pour avoir un objet.
Dont
on a juste créé... l'idée du manque.
Voilà, et puis c'est des objets, enfin c'est pas ça qui va aider à la survie de l'espèce. Mais en fait, si tu veux, le comportement de notre inconscient va pas faire de différence. Pour lui, c'est à partir du moment où il y a une sensation de manque ou de frustration, lui il se met en route et il fonctionne toujours de la même façon, que ce soit pour survivre vraiment parce que tu meurs de faim et qu'il va falloir arracher un bout de viande pour pouvoir vraiment te nourrir et survivre, ou que ce soit pour un jeu vidéo ou n'importe quoi. Lui, son mécanisme, ça va être le même. Ce qui crée des comportements complètement aberrants dans nos sociétés à l'heure actuelle. Que ce mécanisme existe parce qu'il y avait des tigres à dents de sabre ou parce qu'il fallait se battre pour pouvoir se nourrir et s'alimenter il y a quelques millions d'années, ok. Mais dans nos sociétés, le problème, c'est qu'il continue toujours à fonctionner comme ça. Et c'est, pour moi, c'est ce qui explique les comportements de domination d'humains sur d'autres humains, la capacité de créer des génocides, toutes ces aberrations de comportements humains. La souffrance qu'on est capable de générer, tout ça, pour moi...
La domination sur les animaux aussi.
Oui, la domination sur tout. En fait, on domine...
Sur la nature.
Voilà, sur le, quel que soit le... On objet... Si tu veux, l'inconscient va objetiser le monde, son environnement, pour pouvoir l'utiliser à sa survie. Même si c'est complètement irrationnel à notre époque.
D'autant plus avec ce fameux virus qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Alors ça doit être pire. Impossible de dominer un virus.
Bah ouais, mais comme il y a un virus là, et puis...
catastrophe naturelle.
Voilà, ou de toute façon, il faut accepter qu'on soit confronté à des choses qui nous échappent. Et qu'il y a pas mal de gens qui commencent à dire, mais au lieu d'envisager le pire, peut-être déjà... commencer par savoir qu'est-ce qu'on peut faire soi-même en tant qu'individu pour être suffisamment fort au niveau de notre organisme, par exemple si on prend le Covid, avoir un système immunitaire suffisamment solide pour pouvoir affronter la maladie. C'est redonner du pouvoir à la capacité qu'a notre corps à affronter aussi ce genre de... d'événements.
Et donc pour ça, il faut bien se détendre pour quitter le mode survie et décider d'être...
Oui.
C'est ça dont on parle.
Ouais. Ouais. Alors, il y a... tout à l'heure, je parlais du diagnostic de Perls, où il disait qu'un individu élevé dans un environnement qui ne répond pas à ses besoins va inhiber ses émotions, ses besoins. Il va se retrouver dans la frustration et va être en mode survie. Quand on est en mode survie, du coup, on va développer... on est en état de stress. Le mode survie, il faut vraiment le rattacher au stress. Donc, le stress, en fait, c'est un mécanisme que le corps a développé pour pouvoir mobiliser un maximum d'énergie pour pouvoir fuir ou se battre. Donc, c'est des hormones qui, comme le cortisol, par exemple, ou l'adrénaline, qui vont solliciter énormément l'organisme et qui vont, du coup, demander beaucoup d'énergie à l'organisme. Et si on n'est pas capable de revenir à un état de détente et qu'on rentre dans des stress chroniques, c'est le cas pour moi de nos sociétés actuelles, de l'état de l'humanité, on est dans des stress chroniques, on va affaiblir considérablement notre organisme et notamment le système immunitaire. Donc on ne va plus être en capacité de se défendre de façon optimale face à des virus ou n'importe quelle maladie d'ailleurs. Les neuroscientifiques disent que...
La dépression même.
Ouais,
en fait.
Ouais.
D'ailleurs, je fais un petit parallèle et on reviendra sur ce que les neuroscientifiques disaient, mais si on remonte dans notre histoire, l'humain vivait beaucoup moins longtemps, pour plein de raisons, mais était peut-être du coup surexposé à du stress dû par justement des environnements hyper difficiles, de plus en plus difficiles. Et maintenant que l'environnement semble plus doux, en théorie, technologiquement en tout cas, plus confortable, l'espérance de vie augmente. Mais arrivent maintenant des choses complètement récentes dont on parle depuis 10-15 ans, des hypersensibilités à ci ou ça, des burn-out, des dépressions. Si, en fait, de vivre plus longtemps mais plus tendu nous rendait... plus atteint psychologiquement.
De toute façon, ouais, les neuroscientifiques expliquent que 95% des maladies humaines sont liées à notre état émotionnel et à notre état mental. Et qu'il n'y a que 5% des maladies qui seraient réellement dues à une déficience génétique de l'organisme. Donc effectivement, nos façons de penser... nos états émotionnels vont générer à la longue un affaiblissement de l'organisme qui fait qu'on va déclencher des maladies. Moi, j'approche la cinquantaine et je me rends compte qu'il y a autour de moi des gens qui développent des cancers à tout va ou qui ont des infarctus ou qui ont des ruptures d'anévrisme ou des choses comme ça. Il y a en permanence... Dans notre société, comment il expliquait ça, Boris
Cyrulnik,
il disait qu'on était dans le sprint, dans la course. On est en permanence dans la course, le besoin de performance, l'accélération de la vie, fait qu'on est en permanence dans le stress. On est dans un embouteillage, on est en état de stress. On arrive en retard à un rendez-vous, on se met en état de stress. On arrive au boulot, il faut faire des chiffres, il faut réussir à remplir telle mission et tout ça, on est en état de stress. On crée en permanence du stress dans notre société. Autre chose aussi que je voulais dire par rapport à ce monde dur ou qui ne répond pas aux besoins de l'enfant, comme disait Perls, qu'est-ce que pourrait être un monde dur aussi ? Je voudrais parler de mon cas qui va, à mon avis, parler à beaucoup de gens. C'est qu'à l'âge de 2 mois et demi, j'ai été mise chez une nounou puisque le congé maternité de ma maman, ça prenait fin. Et on sait maintenant que pendant la première année de son enfance, le bébé va construire sa sécurité de base, surtout pendant les premiers mois, les tout premiers mois, et autour du 8e mois. Et pour pouvoir construire sa sécurité de base, il a besoin d'être avec sa maman. Un bébé ne sait pas se comprendre comme séparée de sa maman les premiers mois. Donc il faut que
Le cordon n'est pas coupé, voilà. L'allaitement, tout, il y a tout un truc.
Il est incapable, dans les premiers mois de sa vie, de comprendre qu'il est différent de sa maman. Donc si, ça va mettre du temps. C'est un processus qui se construit pendant la première année. Donc si on sépare le bébé de sa maman en le mettant chez la nounou comme ça à longueur de journée, c'est comme si il se comprenait comme amputé d'une partie de lui, ce qui crée un état de stress. Et c'est ce qui crée du coup cet état de frustration qui va développer du coup ce rapport au monde en mode survie. Du coup, qu'est-ce que ça a généré chez moi d'avoir été mise chez la nounou à 2 mois et demi? Je n'ai pas pu construire du coup cette sécurité de base. Je suis devenue ce qu'on appelle, entre guillemets, dans le jargon commun, une dépendante affective. Donc ça s'est reflété après dans toutes mes relations amoureuses. Et puis ça s'est reflété aussi dans le manque de confiance en moi. Et du coup, j'étais quelqu'un qui était en état de stress et d'inquiétude et d'anxiété en permanence. Parce que je n'avais pas déjà cette base en moi de solide, de construite.
Ce qui t'a mis en stress, c'était donc que ton inconscient soit nourri d'une sécurité affective.
En fait, ouais, ce qui m'a pas permis de construire cette sécurité de base, c'est que l'attachement à la maman a été coupé beaucoup trop tôt. Le processus de sécurité n'a pas pu se réaliser jusqu'au bout.
Non, mais je voulais comprendre qu'est-ce qui du coup, après, qu'est-ce qui se reflète c'est quel type de comportement qu'on a, du coup
En tant qu'adulte, par exemple.
Voilà.
Alors déjà, on a un manque. Moi, j'avais un manque de confiance en moi énorme. J'avais besoin toujours des autres. J'étais incapable d'être autonome, indépendante.
Donc monter un projet seul, faire quelque chose...
Impossible. De rentrer dans le monde du travail, ça m'était compliqué. J'étais en insécurité permanente face à mes congénères, face à la vie en général. Je flippais de tout.
Ouais. Le pire scénario tout le temps. Est-ce qu'il est mort? Ouais. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va y arriver?
Voilà. Et du coup, j'avais en permanence ce besoin... je me suis mise en couple à l'âge de 16 ans et demi. Et c'était en fait mon compagnon qui était en permanence ma sécurité, qui me rassurait en permanence. Donc je laissais tout mon pouvoir à mon compagnon. Ma vie dépendait entièrement de mon compagnon.
Ce qui a dû lui mettre une bonne dose de stress au passage, j'imagine.
Eh ben...
Peut-être pas, au contraire, ça nourrissait.
De toute façon, après, ce qui était intéressant pour mon compagnon, c'est que j'étais dans la soumission. J'étais prête à accepter n'importe quoi. Et j'ai accepté du coup de la maltraitance de mon premier compagnon, qui était quelqu'un de violent et d'alcoolique. Donc j'ai accepté la maltraitance parce que pour moi, c'était plus acceptable... la maltraitance, mais de rester en couple plutôt que de me retrouver seule. J'étais incapable de vivre seule. J'avais l'impression de mourir, réellement. Je me suis retrouvée seule dans ma vie, mais 15 jours, c'était le maximum que je pouvais supporter. Il fallait vite que je retrouve quelqu'un, un compagnon. Et là, tu rentres dans une relation amoureuse, mais pas pour les bonnes raisons. Donc en fait, ce qui s'est passé dans mon enfance a conditionné complètement ma vie affective, ma vie professionnelle par la suite. Et je ne suis pas la seule à aller chez la nounou à 2 mois et demi. Hein. Le congé maternité s'arrête pour toutes les mamans à 2 mois et demi. Donc on crée pour moi des générations de gens anxieux et incapable d'être autonome. C'est le constat que j'ai fait pour moi, et c'est le constat que je vois pour la plupart des gens autour de moi. Et du coup, comme j'étais incapable d'être autonome, de prendre ma vie en main, d'être suffisamment confiante et sécure, je me dis que je comprends mieux la capacité qu'ont nos dirigeants à prendre du pouvoir sur nous. Et je comprends mieux aussi cette attitude de mes concitoyens à remettre le pouvoir à nos gouvernants, à nos dirigeants.
Et de quoi l'humanité a-t-elle été sevrée trop tôt alors ? Les mécanismes mêmes de nos sociétés reproduisent sans cesse ce qu'on est là en train de décrire. Tu disais, c'est un exemple qui parlera à beaucoup, c'est le tien. Mais en fait, il parle à la civilisation humaine d'une manière générale. On a l'impression que l'ensemble de nos sociétés, de nos concitoyens sont pris là-dedans. Quand bien même leur mère les aurait gardés un an.
Oui.
Je me sens moi-même prisonnier d'un système qui fonctionne comme ça.
Où on est tous...
On a tous été abandonnés, donc on est tous dans une recherche affective, tous à attendre que papa, roi, président, chef de je ne sais quoi, que le patriarche règle le problème, quand bien même il nous tape dessus.
Mmh. Je pense que... Pour moi, je pense qu'en fait, l'humanité est depuis la nuit des temps dans ce mode de survie. Et que du coup, on est en permanence dans nos peurs, dans nos frustrations, dans notre incapacité de se responsabiliser et de sortir de ce schéma. Pour moi, d'avoir réussi à prendre davantage de pouvoir sur ma vie, davantage de confiance en moi, d'estime de moi et de me sécuriser suffisamment, ça a été un processus long que j'ai dû faire en thérapie. C'est qu'à force de subir de la maltraitance ou de me retrouver dans des relations amoureuses où j'étais... j'arrivais pas à être heureuse, à un moment donné, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Alors, ce qu'il faut peut-être aussi comprendre, c'est que nos inconscients vont se transmettre de génération en génération, c'est-à-dire que les blessures que nos ancêtres ont vécues pendant les guerres, les abandons, moi j'ai de la famille qui a fui leur pays, qui se sont retrouvés en camp de concentration, des choses comme ça. Il y a toute cette histoire que l'humanité se transmet de génération en génération. Donc, ça va être compliqué de créer un nouveau futur si on ne fait pas l'éclairage du passé et qu'on va pour pouvoir transformer ces modes de fonctionnement. Ils vont forcément se transférer aux générations futures aussi, quoi.
Et oui, et d'ailleurs, on le constate, l'histoire ne fait que se répéter sans cesse. Les conflits, les révolutions, toutes pareilles avec le même résultat.
Et j'ai compris, à mon petit niveau à moi, que l'inconscient était quelque chose d'extrêmement puissant. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Toutes les décisions, tous les choix qu'on peut faire, c'est lui qui nous les dicte, en fait. C'est lui qui est, comme je t'expliquais, le marionnettiste. Et nous, on est sa petite marionnette. Il y a un documentaire qui est passé sur Arte, qui est assez sympa à voir. Ça s'appelle « La magie de l'inconscient ». Et ça explique bien à quel point il a un pouvoir extraordinaire et qu'on est vraiment ses petits pantins, quoi. Pour moi, ça devient nécessaire de comprendre comment notre inconscient fonctionne et de voir à quel point il a un contrôle sur nous pour pouvoir déprogrammer ça et mettre en place quelque chose d'autre.
Alors, est-ce qu'on pourrait donner là, pour toutes nos auditrices, auditeurs, deux, trois clés pour percevoir qu'ils sont bien pris dans ce truc-là ? Que leur inconscient les maîtrise totalement, ce dont on parle là depuis tout à l'heure, ces mécanismes de peur. Et puis, évidemment, moi, c'est ce que j'entends en filigrane, il faut forcément passer par une thérapie personnelle, en fait. Est-ce qu'il faut mettre l'humanité entière en thérapie ?
Alors, l'humanité entière en thérapie, ouais, ça m'arrangerait, moi. J'aurais plein de gens qui viendraient me...
Ouais, vous avez intérêt à être solide, les thérapeutes, vous allez être beaucoup.
Alors, quelles seraient les clés qui nous montreraient qu'on est pris là-dedans ? Alors, les scénarios catastrophes qu'on se fait très facilement à longueur de journée.
De moi, qu'on s'imagine le pire, quoi.
Voilà, où on s'imagine à chaque fois le pire. Par exemple, moi qui étais du coup très, très anxieuse, quand mon compagnon partait au travail le matin, ça y est, je me mettais déjà en état de stress. Pour moi, j'étais en état de survie, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé ma bouteille d'oxygène. Et j'étais dans l'attente de son retour. Donc, s'il rentrait à 5 heures, je peux dire qu'à 4h30, j'étais déjà en train de regarder par la fenêtre, voir si je ne voyais pas la voiture arriver. À 5 heures, pour moi, ça y est, la voiture devait être sur le parking. À 5h01, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? À 5h02, bon, ça y est, il y a eu un accident. Et je me mettais dans des idées de scénarios pas possibles. Ma fille aussi m'a raconté que quand je rentrais un peu tard ou que j'avais un peu de retard, elle m'imaginait toujours avoir un accident de voiture, une catastrophe ou des choses comme ça. Donc à partir du moment où on commence à s'imaginer des choses un peu négatives, c'est que là, c'est notre inconscient qui nous prépare au pire des scénarios pour qu'on soit prêt à affronter. Si c'est le cas. Alors ça, pour moi, c'est un des symptômes majeurs du pouvoir de notre inconscient.
Alors si on parle de la période, le Covid fait peur à tout le monde parce qu'ils ont peur de mourir. Le pire, c'est que tout le monde va mourir.
Voilà, ouais, exactement. Alors que il y a des médecins qui explique qu'il y a plein de choses à faire et que la virulence de ce virus a beaucoup diminué.
En tout cas, bouge,
voilà, et qu'il y a plein de choses à faire en amont, plutôt que de s'imaginer des scénarios catastrophes où on laisse place à la peur et à la panique et au stress, et qui va du coup affaiblir notre organisme et notre système immunitaire. C'est justement essayer de mettre en place des choses pour booster notre système immunitaire. Quelque chose qui est intéressant à voir avec les émotions, et ça, tout le monde peut en faire l'expérience, c'est que quand on se met dans l'état de peur, d'inquiétude, de stress, de colère, de frustration, de culpabilité, des choses comme ça, on voit bien à quel point ça nous plombe, ça nous tire vers le bas. On sent bien que ça nous pompe, ça nous vide en énergie. Par contre, quand on va se mettre dans des énergies d'amour, de joie, de satisfaction, de contentement, de félicité, tout ça, on sent bien que ça nous booste, que ça nous redonne de l'énergie. Eh bien, c'est vraiment prendre conscience que ce n'est pas juste, juste une sensation comme ça, superficielle ou voilà, pas plus importante que ça. C'est prendre conscience que cet état de bien-être que créent les émotions positives va réellement agir sur notre physique, sur notre système immunitaire, sur nos défenses et sur l'état général de notre organisme. C'est vraiment l'interview que j'avais fait l'autre fois, c'était ça que je voulais exprimer, c'est que il faut vraiment qu'on trouve les moyens de se mettre dans ces énergies dites positives, parce que c'est ce qui va générer de la force pour notre organisme, pour pouvoir justement pallier déjà à toutes sortes de maladies. Mais même au-delà du Covid, quand je vois mes amis qui font des infarctus ou tout un tas d'autres maladies, c'est parce que le stress chronique finit par abîmer la machine. Et qu'au contraire, d'être dans des énergies positives, dans des émotions positives, ça va nous amener à l'état de santé. C'est ce qui crée la santé en nous.
Santé, bonheur.
Voilà.
Comment tu expliquerais que dans nos sociétés, moi j'ai quand même l'impression, à l'heure actuelle, que l'humanité est plutôt en fuite, alors qu'elle pourrait être hyper agressive. C'est-à-dire considérer que justement les gouvernants dominants ne lui assurent pas du tout sa survie. Et que donc on attaquerait à juste titre ce système qui crée des inégalités, qui produit du stress, etc. On pourrait attaquer. Et que pour l'instant, il y a un peu un truc, bon, une résignation qui ressemble à la fuite.
On voit un peu, effectivement, les deux comportements, mais effectivement, l'attaque n'est peut-être pas assez importante.
L'attaque ressemble beaucoup à « papa, s'il te plaît ».
Oui. Bah, disons qu'un comportement adulte, ça veut dire se positionner face à nos gouvernements, face à nos dirigeants, ça voudrait dire qu'on a suffisamment confiance en soi, qu'on a suffisamment une bonne estime de soi et une sécurité intérieure, qui fait qu'à un moment donné, c'est je prends ma vie en main, je me comporte en tant qu'adulte responsable. La responsabilité, c'est pas facile à prendre quand on manque de confiance et quand on se sent insécure. C'est au-delà, je dirais même que c'est au-delà de nos forces. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'arrivais pas à prendre ma vie en main et à me positionner, à être responsable. C'était au-delà de ma force. Je me sentais pas les compétences. Et je laissais, du coup, les autres prendre ma vie en main, ma responsabilité, quoi. Et je pense que la plupart des gens ne sont pas suffisamment sécures et confiants pour se positionner réellement. Il y a aussi le mode survie, c'est aussi ce qui nous enferme dans le mode victime. Ça arrange aussi d'être une victime parce que ça nous met directement par rapport à notre culture judéo-chrétienne dans le camp des gentils. Je suis un gentil, moi je suis une bonne personne, moi je fais rien, je suis victime. C'est les autres les bourreaux, c'est les autres les méchants. Vous voyez, on a tendance à fonctionner de façon, comment on dit, un peu binaire. C'est il y a les gentils, les méchants, il y a les grands, il y a les petits.
Le bien, le mal.
Il y a le bien, le mal. Et on est aussi enfermé dans ces croyances-là et ces modes de pensée, et qui sont là aussi dans notre inconscient. Donc inconsciemment, d'être en mode victime, ça nous permet aussi de nous déresponsabiliser de quoi que ce soit. C'est moi, je suis responsable de rien hein, par rapport à ce qui se passe. Hein. C'est pas moi, c'est les autres. Moi, j'ai rien fait. Et c'est très enfantin comme comportement, mais ça nous permet de nous laver un peu les mains, quoi. Et de se positionner et de devenir responsable, ça nécessite aussi d'accepter les conséquences de son positionnement ou de ses actions ou de sa façon de voir les choses. J'aurais jamais pu parler dans ce micro si j'avais pas fait le travail sur moi auparavant. Jamais de la vie je me serais positionner comme je suis en train de le faire et parler de mes convictions ou de ma façon de voir les choses devant des auditeurs. Là, j'accepte de prendre mes responsabilités, j'accepte les conséquences qui en découleront.
Tu t'es fait des scénarios catastrophes ?
Non.
Même pas.
Non. Je me suis dit, bon, bah, j'espère que j'arriverai à expliquer de façon assez compréhensive, assez audible, les choses qui, pour moi, me sentent importantes. Pour moi, on est actuellement dans une société, où on est dans l'humanité, le monde dans lequel on est malveillant. On n'est pas bien dans la bienveillance. C'est pas quelque chose qui est encore en nous parce qu'on est toujours coincé dans ce mode survie. Et ce mode survie, c'est la compétition, la rivalité, la domination. Et ça va vraiment nécessiter une prise de conscience individuelle pour commencer à fonctionner autrement et commencer à passer dans des sociétés bienveillantes. Et ça va donc nécessiter que les gens apprennent. C'est un apprentissage, c'est une prise de conscience et un apprentissage. Parce que moi, je me suis rendu compte que prendre conscience des mécanismes de mon inconscient, dans quoi il m'embarquait, c'était une chose, mais c'est pas pour ça que j'arrivais à le contrer. Il a fallu vraiment que j'apprenne petit à petit à poser des actes ou à avoir des outils pour contrer mon inconscient qui m'embarquait là où il voulait, en fait, avec une facilité déconcertante. Donc, il y a vraiment une prise de conscience et un apprentissage pour pouvoir sortir de ce mode survie, de ces mécanismes de domination et aller vers une société meilleure. Reprendre du pouvoir sur nous, reprendre du pouvoir sur nos vies, reprendre du pouvoir par rapport à ce qui se passe dans la société et mettre en place des choses beaucoup plus éthiques, beaucoup plus sages, beaucoup plus raisonnables ou bienveillantes, fraternelles.
Une émission pour survoler ce que nous fait l'inconscient et nous dire de prendre conscience de notre inconscient, ça c'est quand même...
Voilà, c'est ça.
Soyez conscient que vous avez un inconscient qui vous martèle.
Voilà, et très puissant, vraiment très très puissant. Moi je l'ai vu m'embarquer dans des choses, c'était assez incroyable quoi.
Et puis bon, je crois qu'on le voit tous, justement, avec ce Covid, ça nous permet de vraiment avoir un jeu à grande échelle. D'autres ont eu la guerre, d'autres ont eu... C'est peut-être pour ça qu'ils parlaient de guerre, l'autre.
Oui, c'est ça. Mais finalement, à qui... Enfin, c'est une guerre contre qui ? Contre quoi ?
Contre nous.
Ouais.
Merci, Sylvie.
Merci à vous.
On se revoit peut-être une prochaine fois.
Peut-être.
Voilà.
Avec grand plaisir. Merci.
Interview.
Hey, the bear.
L'interview du jour.
L'interview du jour.